Loué et exalté soit le Seigneur. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu et pour expérimenter Dieu, mais chanter aussi fait partie de ça. En chantant, nous ouvrons nos cœurs et adorons. Nous remercions le Seigneur par les chœurs, par les cantiques et par la prière pour ce qu'il a fait en nous. Moi aussi, de ma part, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous très chaleureusement dans le précieux nom du Seigneur. Et je me souhaite, et à nous tous, un temps de détente, de rafraîchissement et de bénédiction. Quand je veux dire détente, je veux dire par là que nous puissions tout ce qui apporte de la tension dans notre vie, le laisser derrière nous. Et ne pas permettre que par quoi que ce soit, de la tension vienne, de la tension soit manifestée. On connaît ça de la politique, il est parlé de la politique détendue. On veut là où il y a des dangers qui menacent, là où il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, là on veut un peu détendre l'atmosphère pour que de nouveau cela devienne bien. Non, nous voulons faire attention aussi que dans ces jours, que chacun puisse contribuer à ce qu'il y ait pas de tension parmi le peuple de Dieu. Et là où la tension a été apportée, que cette tension soit apportée sous la croix et laissée là-bas pour que nous puissions vraiment dans la présence de Dieu nous détendre, vivre sans tension. Je devrais être le plus nerveux de vous tous. Mais pas quand on fait confiance à Dieu. Si on faisait confiance à nous-mêmes, alors ce serait, n'est-ce pas, très mauvais, très mal pour nous. Mais celui qui fait confiance à Dieu et croit Dieu ne peut pas et ne sera pas confus. On peut passer par des épreuves, mais nous ne pouvons pas être confus. Parfois cela semble ainsi, mais la fin apportera la preuve que aucun qui a fait confiance au Seigneur n'a été confus. En fait, cela est écrit aussi dans la Bible. Hein? Et parce que c'est écrit ainsi dans la Bible, c'est pour cette raison que cela est vrai. Et c'est pour cette raison que nous le croyons. Ainsi, et parce que nous le croyons, nous pouvons aussi l'expérimenter. Ainsi, nous voulons, dans ces jours, avoir des heures bibliques, des heures de manière particulière, à caractère particulier, liées. Nous voulons poursuivre l'histoire du salut et observer ces choses et nous approfondir ensemble dans la parole de Dieu pour que chacun puisse partir ces choses à la maison. Donc, parcourir l'histoire du salut. En ce qui concerne les prédications, nous avons beaucoup de matériel, que ce soit les prédications traduites de Frère Branham ou alors celles qui ont été tenues par nous ici et là. Nous avons tout. Nous avons donc de nombreuses prédications à tel point qu'elles pourraient suffire jusqu'à l'apparition du millénium. Et Dieu nous en ajoute encore, toujours de nouveau. Mais en fait, il ne s'agira pas seulement des prédications que nous avons écoutées, mais il s'agira, ce qui comptera, c'est de chacun particulièrement, avec quelle disposition il écoute la parole de Dieu, de quelle manière nous écoutons la parole de Dieu. Je ne sais pas si mon bien-aimé frère Singh est ici. Oui, il est ici. Est-ce que je peux dire ce que tu m'as dit le dernier dimanche? Oui, je vais le dire avec mes propres paroles. D'abord, la prédication a presque rien à dire.
Mais,
et ensuite, il a encore écouté.
Et
déjà, elle avait déjà beaucoup à lui dire. Et alors, il y a un frère qui l'a appelé et qui lui demandait, est-ce que tu as encore écouté la prédication? Pour une deuxième fois, elle était tellement puissante. Et pour la troisième fois, je le dis avec mes mots, et la troisième fois, la joie fut parfaite. Donc, parfois, ça dépend de notre disposition. Ou bien alors, peut-être qu'on est distrait. Donc, ce n'est pas la prédication qui n'a rien à nous dire. C'est à cause de notre disposition qu'elle n'a rien à nous dire. C'est peut-être qu'il faut l'écouter deux fois, même trois fois, pour pouvoir permettre à Dieu de nous parler. Donc, c'est dans le calme et la confiance et le repos que nous pouvons être disposés et écouter la parole concentrée. Car si nous passons par les tempêtes, encore aujourd'hui, sa parole a le même pouvoir. Encore aujourd'hui, les tempêtes et les vagues doivent opérer la parole de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous écoutons la parole de Dieu avec étant concentrés, les tempêtes et les vagues doivent se retirer. Le Seigneur a même dit autrefois, faites attention à la manière avec laquelle vous écoutez. Luc 8, 18, verset 18. Donc, ce qui compte, c'est la manière avec laquelle nous écoutons, pas seulement d'écouter. Combien ont écouté la parole du Seigneur autrefois? Mais comment est-ce qu'ils l'ont écouté? Comment est-ce qu'ils l'ont écouté? Les uns l'ont écouté avec un cœur ouvert et les autres avec des critiques dans le cœur et tout ce qui était encore là. Je ne crois pas que quelqu'un se ferait l'effort de venir seulement pour exercer de la critique. Non, pour critiquer, non. Je crois que tous nous sommes venus avec un seul désir dans nos cœurs. C'est d'écouter la pure et sainte parole de Dieu et ce que nous écoutons ensuite, l'expérimenter personnellement. Nous écoutons la parole pour l'expérimenter, pour en devenir une partie et ainsi devenir une partie et vivre ainsi la partie de l'histoire du salut et que plus profondément nous soyons insérés, introduits dans les mystères de Dieu. Je crois que nous sommes venus avec ce désir dans nos cœurs. J'ai des salutations à remettre de beaucoup qui ont appelé ou bien alors qui personnellement ont demandé « Frère Franck, salut, le frère pardon, Werner Zink m'a demandé à Zurich de saluer le frère Forestieri, encore d'autres ont demandé. Le frère Forestieri m'a demandé de saluer tous. On pourrait faire toute une liste. Beaucoup nous souhaitent dans ces jours les riches bénédictions de Dieu. Et même si ils ne peuvent pas être tous ici, mais en esprit, ils sont ici liés avec nous. Nous espérons. Et ça, c'est une remarque terrestre. Que aussi en ce qui concerne l'extérieur, l'hébergement et tout ça, que nous puissions aussi là, dans les dortoirs avec beaucoup de personnes, beaucoup bien nous insérer, nous ajuster. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ne vous plaignez pas pour ne pas non plus décourager les autres. On peut, d'une certaine manière aussi, avec tout l'amour et la bonne volonté, on peut, n'est-ce pas seulement, à un certain degré, satisfaire les attentes de chacun. Nous voulons héberger ici selon les moyens que nous avons et les possibilités, même si ça ne réussit pas toujours de répondre aux attentes de chacun. Nous ne savons pas, mais nous faisons de notre mieux, particulièrement cette remarque peut-être en ce qui concerne les enfants parmi les parents croyants. C'est ainsi qu'ils doivent particulièrement faire attention à leurs enfants, surveiller leurs enfants. Et s'il vous plaît, si ce n'est pas le cas, donc ce sont donc les autres parents qui vont être obligés de surveiller les enfants d'autres parents. Si les parents ne le font pas, pour que tout se déroule sans problème et que personne laisse monter des choses dans ton cœur. Je voudrais vous saluer tous et vous souhaiter à tous la bienvenue, nos frères et sœurs de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Finlande, de Haïti, d'Haïti, et j'aurais presque dit de Honolulu, partout d'où est-ce que vous êtes, de l'Afrique, d'où est-ce que vous êtes tous, que Dieu le Seigneur, qu'il puisse, et nous tous, ensemble de la plénitude de sa grâce, nous bénir. Là, il y a un frère du Burundi, qui est là, et il y a beaucoup qui sont là, d'ici et là, et si tous pouvaient être ici, qui voulaient être ici, alors la salle, donc le parking où les voitures se garent, serait trop petit, ne suffirait pas. Dieu a fait de grandes choses dans beaucoup, en beaucoup. Un très grand privilège particulier m'a été accordé de saluer ici, dans cet endroit, l'un de mes frères et de mes amis et de mes frères de l'Allemagne de l'Est, de la DDR, de les saluer ici, à cet endroit. Vous savez, nous évitons volontairement de nommer des noms, mais tu peux quand même te lever. Et que Dieu te bénisse parmi nous. Et le frère à côté de lui est déjà notre invité connu. Que Dieu te bénisse. Donc nous avons deux jeunes frères ici de l'Allemagne de l'Est, donc de la République démocratique allemande. Et quelqu'un qui de l'Est demande un visa pour passer à l'Ouest à cet âge, c'est automatiquement refusé. Et particulièrement, ce frère qui peut être ici, de la main de l'Est, c'est un miracle de Dieu. Et nous vous souhaitons à tous, de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu. Et nous souhaitons la même chose au gouvernement là-bas et à tous. Nous appartenons à ceux qui, n'est-ce pas, croient la parole de Dieu dans son entièreté et respectent aussi cette partie où il est écrit que toute autorité viennent de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Romains 13, verset 1. Que cela nous arrange ou pas, c'est ainsi que c'est écrit. C'est peut-être raison que cela a à nous arranger et à nous plaire. Et nous souhaiterons même à tous les riches bénédictions de Dieu. Qu'est-ce que nous souhaiterons de mieux que tous ceux qui ont été déçus du christianisme, une fois, puissent écouter la prédication du vrai Christ et expérimenter le vrai Christ. Beaucoup ont contribué à ce développement et ces hommes-là sont plus là aujourd'hui. Mais dans la politique, nous ne voulons pas nous mélanger à la politique parce que ça, c'est un fer chaud comme la religion. En fait, c'est deux choses, on devrait les laisser tranquilles et de rien avoir à faire avec cela. Et c'est peut-être raison qu'en cet endroit, nous avons affaire ni à la politique ou à la religion. Nous n'avons rien à voir à faire avec ça. Là, vous êtes étonné, hein? Vous êtes surpris. Mais c'est une grande différence entre la religion et les associations religieuses, etc., etc. Et là même, entre ce mot croyant, il n'y a pas longtemps, ce monde-là, cet homme connu dans le monde entier, là, mondial, disait à Assisi que tous les croyants étaient présents, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'importance à quelle croyance ils appartiennent, qu'ils croient à Bouddha ou bien à Confucius. Ils étaient pour lui tous croyants, ils ont tous adoré, ils ont tous prié, etc. Donc, il y a des expressions comme ça qu'ont complètement pour ces hommes perdu leur sens. Croyant, laisse seulement celui qui croit Dieu et la parole de Dieu et cela de tout son cœur. Pour cela, nous en sommes très reconnaissants de ce qu'il y a de tels hommes encore qui existent sur terre. Et nous ne jugeons personne. Bien au contraire, si nous ressentons quelque chose, c'est une douleur profonde au fond de notre cœur. Et lié à cela, le souhait profond est que le Dieu fidèle, qui, n'est-ce pas, connaît tous les cœurs, connaît toutes les circonstances, qu'il puisse, avant que les portes se ferment, faire une offre de grâce à l'humanité, et tel que nous comprenons bien les Saintes Écritures, nous savons qu'il fera cette offre de grâce à l'humanité, car l'évangile du royaume, cet évangile du royaume doit être prêché, n'est-ce pas, à toutes les nations, à tous les peuples, comme un témoignage. Le Seigneur disait autrefois, vous êtes mes témoins. Et ce témoignage vivant, du Dieu vivant, qui en Christ s'est manifesté, devrait, par l'Église vivifiée, encore une fois, être prêchée. Dieu nous a appelés à la vie éternelle. Donc, sentez-vous bien dans le Seigneur et soyez ouverts pour chaque parole que nous lirons dans ces jours. Beaucoup d'écritures, de versets seront lus. Et alors nous verrons comment est-ce que l'Esprit de Dieu continuera à agir. Comme première chose, commençons avec des versets bibliques qui semblent en eux cacher une contradiction. Et je le fais volontairement pour aider, parce que vous savez, avec les arguments des autres, pour pouvoir surmonter et en finir avec les arguments des autres. Parce que c'est seulement quand nous connaîtrons nous-mêmes la Bible que nous pourrons, avec la parole de Dieu, aussi les rencontrer. Avant d'entrer dans l'observation de la parole, nous voulons encore nous lever et prier. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ce jour. Bénis et sanctifie ce jour pour la gloire de ton nom et la louange de ton nom. Sanctifie les lèvres que tu veux utiliser pour parler et sanctifie les cœurs et les oreilles de ceux qui écoutent. Oui, accorde ta grâce pour les deux choses, pour parler et pour écouter. Que les paroles qui seront prononcées soient des paroles de Dieu. Nous te demandons pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui encore sont dans le doute, que tu puisses les faire sortir comme un charbon du feu. Que tu puisses sauver, que tu puisses délivrer, que tu puisses guérir. Montre-nous que devant ta face, nous sommes rassemblés ici en ton nom pour nouvellement t'expérimenter. Que personne soit exclu de ta bénédiction. Que tu puisses nous accueillir tous, nous recevoir tous. Nous bénissons ton peuple en ton nom. Et nous pensons à Israël, ton peuple, d'une manière particulière. Bénis tous ceux qui se confessent de toi et qui sont déterminés à exister pour la gloire de ton nom. Sois avec nous. Et que l'onction du Saint-Esprit se repose et soit sur toute la congrégation rassemblée. Comme dans le livre de Zacharie, il est écrit, ordonne toi-même à Satan qu'il puisse se retirer comme accusateur des frères et qu'il puisse abandonner chaque cœur de cette salle. Consacre-nous à toi pour que dans une atmosphère sainte, nous puissions être rassemblés devant ta face. Nous croyons que tu es le vainqueur de Golgotha et que Satan a perdu tout droit sur ton peuple et qu'il est vaincu et que nous sommes libres. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, que la joie du salut soit en nous tous manifestée, la reconnaissance pour la rédemption. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous remettons cette réunion. Bénis-la de la plénitude de ta grâce, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais comme première chose lire la parole du prophète Ésaïe, le chapitre 51. Et là-bas, c'est le verset 4. J'aimerais lire Ésaïe, chapitre 51, verset 4. Écoute-moi, mon peuple. Prête-moi l'oreille, assemblée de mon peuple, car l'instruction sortira de moi et j'établirai mon droit pour éclairer les nations. D'abord ce verset. Nous ne venons pas ici pour écouter un homme. Nous venons ici pour écouter Dieu, pour écouter la parole de Dieu, de la part de Dieu, la parole pure, sans alternance, sans falsification, pure, originale, pour que Dieu ait la possibilité de nous parler. Mais nous devons être prêts à écouter. Écoute-moi, toi mon peuple, prête-moi l'oreille, toi assemblée de mon peuple. Il relit le verset 4 d'Ésaïe 51, car l'instruction sortira de moi et j'établirai mon droit pour éclairer les nations. Pas ton droit, pas nos droits, mais le droit de Dieu. Quand quelque part le droit doit être fait, alors toutes les différentes parties veulent avoir raison. Mais ici, Dieu doit juger et avoir le dernier mot. Il a déjà parlé. Nous avons seulement besoin de prêter l'oreille à ce qu'il a à nous dire. Et ce droit, le droit divin, le droit de Dieu, devrait, qu'est-ce qui est écrit, c'est tel que c'est écrit ici, être établi pour éclairer les nations, servir à éclairer les nations. Nous allons encore parler de lumière et d'éclaircissement. Il s'agit particulièrement dans le prophète Ésaïe de l'histoire du salut qu'il l'a d'une manière si merveilleuse par l'Esprit de Dieu annoncé à l'avance, mais nous allons venir à en parler encore dans le déroulement de ces jours. Maintenant, nous passons à une parole dans Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, à partir du verset 33. Luc, chapitre 11, à partir du verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre ensuite dans un coin caché ou sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière vive. Ton œil est la lampe de ton corps. lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps a aussi de la lumière. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prenez donc garde que la lumière qui est en vous ne s'obscurcisse. Or, si tout ton corps est illuminé et si aucune de ses parties ne reste dans les ténèbres, alors il sera entièrement dans la clarté, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa vive lumière. Une parole merveilleuse et en soi aussi peut-être une parole étrange, mais nécessaire pour nous tous, et nous allons tirer la comparaison entre le corps que nous avons naturellement et voyons avec le corps du Seigneur. Rapportez cette comparaison avec le corps du Seigneur, c'est-à-dire que tous les membres du corps de Jésus-Christ doivent être éclairés par la lumière de Dieu, et que en nous tous, en chacun de nous, la même vie de Dieu soit. Car la vie est la lumière pour que nous puissions garder le même pas et marcher ensemble avec le Seigneur. Une lumière est allumée, c'est pas de nouveau pour obscurcir la pièce ou bien la placer. Placer la lampe sous la table, bien sous le boisson, mais c'est placer la lampe sur le chandelier. C'est tout à fait naturel. Quand est-ce qu'une lumière est allumée? Quand il fait noir, quand il fait obscur. C'est le soir qu'on a besoin de lumière et c'est le soir qu'on allume la lumière. Et le prophète dit dans l'Ancien Testament que la lumière paraîtra au temps du soir. L'autre prophète disait, ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une lumière brillante. Jean témoigne qu'il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il s'agit de la lumière, il s'agit de l'éclaircissement pour nous, pour les nations, pour tous ceux qui sont déterminés à voir la gloire de Dieu. Ici, même un rappel à l'ordre sérieux, ici nous devons faire attention, une attention sérieuse, que la lumière que nous avons déjà reçue, nous devons faire attention qu'elle ne s'obscurcisse pas. Le verset 35, c'est important, c'est possible que des hommes, par la révélation de l'Esprit, voir les choses de manière claire, telles que l'Esprit les a révélées, et ensuite, quelqu'un vient qui efface la chose, et on perd notre clarté, et la lumière vive n'est plus là, la clarté, la lumière ne brille plus, telle qu'elle brillait pour nous, parce qu'on a accepté une interprétation. Cela n'a pas le droit d'être. La lumière doit rester toujours, doit même briller toujours plus forte pour parler avec le proverbe 4. Jusqu'à que le matin clair apparaisse. Ça aussi Pierre l'a écrit. N'est-ce pas dans ta deuxième épître? Mais il s'agit du verset 36. Or, si tout ton corps est illuminé, ou bien alors dans ton corps, dans tout ton corps, la lumière a été apportée. Et si aucune de ces parties ne reste dans les ténèbres, alors il sera entièrement dans la clarté, donc dans la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa vive lumière. Chaque partie du corps, tout le corps, doit être illuminé de la lumière divine. Et c'est-à-dire comme si un projecteur brillait sur nous et que subitement nous serions dans la clarté, dans la lumière et nous serions vus de tous et observé de tous, et nous devrions constater que aussi dans cette lumière divine, dans laquelle nous sommes, nous pouvons subsister, c'est-à-dire tel que nous sommes. Et que Dieu puisse nous accorder sa grâce à tous, à moi et à nous tous, pour que dans notre corps, esprit et âme, dans notre être entier, nous soyons par Dieu illuminés et que nous puissions subsister dans sa lumière pour que nous puissions aller de l'avant avec notre Dieu. Tel que terrestrement la lumière, le corps est dans la lumière, si notre œil fonctionne, la main voit où elle touche, le pied voit où il va, où il l'est placé, tout fonctionne, tout est en ordre quand l'œil fonctionne. Alors cela est à rapporter avec le corps du Seigneur. Et l'œil dans le corps du Seigneur est selon le prophète Ésaïe, le prophète, le voyant. C'est lui que Dieu a déterminé par la révélation divine voir comme aucun scribe peut voir. Les prophètes ont été appelés des voyants parce que Dieu pouvait leur montrer quelque chose. Et ces prophètes-là sont des voyants. Si Frère Branham avait été qu'un prophète selon l'homme, alors il aurait vu ce que tous les autres hommes aussi voient et rien de plus. Mais il était un prophète selon le modèle biblique, un prophète qui s'est montré à la hauteur de toutes les affirmations que la Bible fait sur un vrai prophète. Qui s'est montré à la hauteur de toutes les affirmations que la Bible fait sur un vrai prophète. Si cela est vrai, dites Amen. Ça, c'est important. De se dire prophète, chacun peut le faire. De se donner un titre de prophète aussi. Et de se montrer comme, de se faire prophète. Mais avec cela, personne n'est légitimé devant Dieu. Nous le disons en cet endroit aussi cela très clairement et très ouvertement, que le corps du Seigneur, l'Église, est l'Église du Dieu vivant. Et que dans cette Église, c'est Dieu qui a établi les différents services pour... Et à ces différents services-là, le service de prophète existe dans l'Église. Nous sommes reconnaissants de ce que, à la fin des temps, parce que il s'agissait d'une période prophétique. Justement, il a utilisé le service prophétique et qu'il a mis à la première place. Si nous regardons dans les dénominations, le service d'évangéliste est la première chose dans les dénominations. L'évangéliste vient avec beaucoup de choses avec lui, avec beaucoup de puissance et de feu. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, Frère Franck, tu aurais dû être là. Il y a une chorale qui a chanté. Alors, pendant que l'évangéliste tel et tel prêchait, une grande chorale, comme 1000 voix. Bon, la chorale, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais alors, alors moi, je préfère la chorale des anges qui ont chanté à Bethléem. Je préfère cette chorale, car elle est écrite que la multitude de l'armée céleste qui louait et exaltait Dieu. Et quand est-ce que cela a eu lieu? Dans Luc 2, quand quelqu'un faisait quelque chose de spécial? Non. Quand Dieu était en train de faire l'histoire du salut sur terre, quand les Saintes Écritures étaient en train de s'accomplir et que des prophéties bibliques devenaient une réalité, c'est là que la chorale céleste à chanter dans Luc 2, les anges. Et nous sommes heureux de ce que Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir. Et malgré tout, nous restons dans l'équilibre sans dévier à droite et à gauche par des propres interprétations et pensées et opinions qui obscurcissent cette lumière originelle que nous avons reçue et que nous a illuminée. Il y a assez d'interprétations dans les pays parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que Dieu a révélé, ils doivent interpréter. Et ne remarquent pas que la lumière originelle que Dieu, par révélation de sa parole, a accordée à son peuple, par cela, est obscurcie. Et bientôt même, les gens ne voient plus où ils vont. Ils font que parler seulement de la lumière. Mais en fait, la lumière n'est plus avec eux. Alors nous voulons prendre garde et demander à Dieu, comme c'est écrit dans Luc 11, verset 35, que la lumière que nous avons reçue ne s'obscurcisse pas, ne soit pas non plus obscurcie, mais qu'elle brille toujours plus forte, toujours plus forte. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est la parole originale prophétique qui brille dans un lieu obscur comme une lumière dans un lieu obscur. C'est comme c'est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20. Pas les interprétations et les explications, les opinions, mais la révélation de la parole prophétique est la lumière. Combien de fois nous avons eu à le dire ici et peut-être aussi dans d'autres endroits. La révélation ne peut pas, on ne peut pas l'enseigner. L'un ne peut pas la donner à l'autre. La révélation, chacun doit la recevoir par Dieu lui-même. Mais il est écrit que tous seront enseignés de Dieu et que ce n'est pas un qui enseignera l'autre. Je souhaite que aussi cette déclaration dans ces jours devienne vraie parmi nous. Que ce ne soit pas un frère qui saisisse un autre frère et essaye de lui donner des cours particuliers et de lui expliquer les choses. Non, mais qu'on laisse chacun marcher avec son Dieu et faire confiance que Dieu enseignera chacun et que tous nous soyons enseignés par Dieu lui-même, par la même parole que nous écoutons tous et le même esprit que nous devons recevoir tous. Ça existe vraiment. Il y a des pédagogues qui existent, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu qui veulent donner des cours particuliers aux autres. Ce n'est pas nécessaire. Dieu nous accorde la clarté à chacun sous l'écoute de sa parole. Et celui qui a reçu cette clarté, elle lui est si précieuse, si sainte, si merveilleuse. Il ne veut même pas en parler. Une expérience précieuse qu'il fait avec son Dieu. Il ne s'agit pas d'en parler. Chacun doit la recevoir. Ésaïe, chapitre 60, verset 1, une parole connue de nous tous. Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, deviens lumière, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel t'a éclairé. Car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel brille comme un soleil et l'on voit sa gloire au-dessus de toi. Les peuples se tournent vers ta lumière et les rois vers la splendeur dans laquelle tu brilles. Vers la splendeur dans laquelle tu brilles. Nous remarquons qu'ici, deux événements bien précis se tiennent dans un contexte. Les deux premiers versets se réfèrent à la première venue de Christ. Le verset 3 se réfère à la deuxième. Mais ici, nous allons venir à en parler dans les détails. Nous voulons, dans ces jours, parler des différentes venues du Seigneur. Et avec l'aide de Dieu, repartir les choses, lire, prier et observer ces choses, jusqu'à que tous, nous-mêmes, nous soyons nous-mêmes bien repartis par Dieu, classés par Dieu pour pouvoir soi-même ordonner les choses à leur place et les voir à leur place et les voir dans la lumière telle que elle nous a été accordée par Dieu. Dans Genèse, dans Jean 3, verset 21, Jean chapitre 3, verset 21, ici il est écrit la chose suivante. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Pas celui qui écoute la vérité, mais celui qui agit selon la vérité, qui la met en pratique. Jacques dit de ne pas seulement écouter la parole, mais de la mettre en pratique. De la mettre en pratique. D'agir selon ce qu'on a écouté. Si nous pouvions appartenir à ceux qui de tout leur cœur sont prêts à ne pas seulement écouter la parole, mais à agir selon la parole, selon la vérité, à la vivre, à la mettre en pratique. C'est par la pratique, par nos actions, par les actes qu'on pose, prouver que nous sommes pas, que nous n'étions pas seulement des auditeurs oublieux et que seulement dans une réunion, sous le coup de la parole, nous nous sommes vus dans le miroir et ensuite nous sommes partis, avons oublié dans quel état nous étions sous le coup de la parole. Mais être des hommes qui, dans la présence de Dieu, regardent dans le miroir de la parole de Dieu d'une manière honnête et sincère, sans penser aux autres, et ensuite vont dans le bain de la parole pour être lavés, purifiés, sanctifiés, et cela sous le coup de la parole, pour que la vérité, pas seulement soit que être pas seulement écrite comme vérité dans la Bible. Nous savons que ce que nous lisons est vrai, mais que nous tous, nous puissions devenir des lettres lues de tous les hommes que l'Esprit de Dieu a pu écrire. Des hommes en qui la Bible peut être lue par les actes qu'ils posent. Mais bien aimé, dans notre Seigneur, on a pu lire tout de les Écritures, de sa naissance jusqu'à sa montée au ciel. Parce que tout était écrit. Il en était l'accomplissement visible dans la chair. Et cela est encore écrit aujourd'hui. On pouvait lire de lui qu'il a été né à Bethléem, comme le prophète Michée, dans le chapitre 5, l'a dit. On pouvait regarder comment est-ce qu'il est monté au ciel. Comme David dans le psaume l'exprimait, Dieu est monté avec louange. Et Paul, dans l'épître à Timothée, l'exprime que Dieu a été manifesté dans la chair, justifié en esprit, prêché dans le monde, reçu dans la gloire. Chaque parole qui se référait à notre Seigneur pouvait être lue de lui, en lui, tout son service, toute sa souffrance, sa mort, tout était l'accomplissement des Écritures. On ne pouvait pas seulement le lire dans le prophète Ésaïe, ou bien dans le psaume 22, ou bien dans d'autres Écritures. Celui qui le suivait et allait avec lui de réunion en réunion, et celui qui marchait avec lui jusqu'à la croix pouvait constater qu'il était une lettre lue de tous les hommes. Tout ce qu'il faisait, tout ce qui était écrit, trouvait en lui son accomplissement. Par ses actes, les Écritures s'accomplissaient. Même cette Écriture, mes pieds et mes mains, ils les ont percés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout était écrit auparavant. Mais maintenant, était celui en qui l'Écriture était devenue une réalité, la même parole, qui se référait à lui, qui avait fait référence à lui, s'accomplissait ensuite en lui et par lui. Nous, comme des hommes privilégiés dans ces derniers jours, nous devons avoir sous nos yeux que Dieu, avec l'Église, s'est donné un haut objectif à atteindre. Et cet objectif consiste à ce que, complètement à la fin, les promesses qui nous ont été données, qui ont été données pour nous, que on puisse les voir en nous, chacun individuellement, et en nous, comme Église, comme accomplie, comme manifestée, comme étant devenue une réalité divine, que cela puisse être lu dans l'Église, dans chacun de nous, et sur le coin de notre cœur. Alors cela aura lieu. Qui attend en fait cela? Qui s'attend vraiment à cela? Je ne peux rien faire d'autre que de prendre Dieu au mot, à ce qu'il a dit, et lui faire confiance et l'estimer plus que capable d'achever l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Et que nous puissions de nouveau regarder peut-être à nous-mêmes, à nos faiblesses et nos manquements, peut-être à toutes sortes de choses, et ensuite, n'est-ce pas, se lamenter. Dieu le Seigneur, lui, il regarde du haut des cieux et il nous dit, mon peuple n'a pas compris. Nous devons comprendre que en Christ, Dieu a fait un homme nouveau. Vous connaissez cette parole d'Éphésiens, de Colossiens, des Philippiens, les trois épîtres, le traite de manière si claire. Nous allons, dans le déroulement des jours, venir à en parler. Dieu a ôté le mur de séparation, de l'inimitié. Il a déchiré et effacé la lettre qui nous condamnait. Et en Christ, dans son corps de chair, pour nous unir avec lui, nous reconcilier avec lui, et en lui faire un homme, créer un homme nouveau qui procure la paix. Et si Golgotha s'est accompli et est devenu vrai, alors cela aussi doit être devenu vrai, ce qui était lié à Golgotha, c'est-à-dire que ce que nous avions attendu réellement s'est accompli. En Christ, à Golgotha, de nous, il a été fait des hommes nouveaux, que cela est devenu une réalité, pas seulement à Golgotha, mais à nous. Si ça ne devrait pas être encore ainsi, mais combien croient que c'est l'objectif de Dieu avec chacun de nous. Que cela deviendra ainsi, manifesté. Que cela doit devenir ainsi. Que les choses anciennes sont vraiment passées. Ce ne serait pas digne de Dieu si cela ne se passerait pas. Que, complètement à la fin, nous soyons manifestés comme des fils et des filles de Dieu, totalement. Que oui, toute la création, n'est-ce pas, soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et aussi certain que le Seigneur l'a planifié, ainsi, aussi certain, il l'exécutera lui-même. Jean, chapitre 18. Une parole connue de nous tous. Ici, il est écrit de notre Seigneur lui-même. Jean, chapitre 18, verset 27. Jean chapitre 18, peut-être, oui, verset 37 plutôt. Ici il est écrit, les lunettes n'aident pas toujours. Jean 18, verset 37 plutôt. Verset 37. Alors Pilate lui dit, tu es donc un roi. Jésus répondit, oui, je suis un roi. Je suis né dans ce but. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. Tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. Écoute aussi ma voix. Pierre disait autrefois, Seigneur, où irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ disait, je suis né dans ce but et je suis venu dans ce monde, dans le monde. Il relit le verset 37, la deuxième partie, pour rendre témoignage à la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il est tout en tous, en tout. Et ce qu'il est lui-même, il en a rendu témoignage. Il a rendu témoignage de ce qu'il est lui-même. Nous pourrions encore bâtir encore là-dessus. Il était Dieu et a rendu témoignage de Dieu. Il était la vie et il a rendu témoignage de la vie. Car en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il est la vérité. Et a rendu témoignage à la vérité. Tout ce qu'il était lui-même, il pouvait ensuite le témoigner. Tout ce que nous devenons, par grâce devenons, nous pouvons ensuite en rendre témoignage de manière crédible. Mais ce que nous ne sommes pas encore devenus par grâce de Dieu, nous pouvons, c'est vrai, le témoigner avec des paroles, sans que Dieu, avec la confirmation, se tienne derrière nous, derrière le témoignage. Avec Jésus, tout était ainsi. Tout était garanti, assuré. Il disait, celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais en tout temps tout ce qui lui est agréable. Et ensuite, il a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui est en moi, qui est continuellement en moi, qui demeure en moi, qui habite en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Ses œuvres. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu en Christ, le Père manifesté dans le Fils, qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui se rappelle de la prédication puissante de frère Branham alors qui disait, tout ce qui était en Dieu s'est répandu en Christ. C'est déversé. Et tout ce qui était en Christ a été répandu dans l'Église. S'est répandu dans l'Église. Pour que toute la plénitude de la divinité corporellement, nous pouvons le lire dans Colossiens, que toute la plénitude de la divinité habitait en Christ. Nous pouvons le lire, car c'est écrit. Que toute la divinité, la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Pourquoi nous ne lisons pas le prochain verset? Pour nous tous, d'une grande importance. Colossiens 2, verset 9 et 10, c'est le verset 10 qu'il faut lire. Si nous attendons dans ces jours que Dieu confirme sa parole et nous utilise et veut nous utiliser pour le faire, alors nous devons savoir ce que Dieu a promis dans sa parole, a dit, pour que nous puissions savoir à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre et que nous puissions par cela savoir, par cela que sa parole est ancrée en nous, pour que sa parole puisse être ancrée en nous, nous devons savoir ce qui est promis et ce que Dieu a dit nous concernant. Colossiens 2, verset 9 et aussi le verset 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, nous le savons. Ça, nous le croyons. Nous pouvons continuer à croire ce que la Bible dit au verset 10. Et en lui, vous possédez toute la plénitude en celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Aussi, ce verset, cette déclaration, frère Branham l'a faite, c'est le titre d'une prédication, ou bien alors une phrase à l'intérieur d'une prédication. Il a dit, vous êtes en possession de toutes choses. Et ce qui nous appartient de plein droit, nous pouvons le revendiquer parce que cela nous appartient. Cela nous a été déjà accordé par Dieu. Accordé de Dieu et nous pouvons avec droit exiger que cela nous soit restitué. Ici, il est écrit, et vous possédez toute la plénitude en lui. Quelle plénitude? La même plénitude. La plénitude de la divinité. Peut-être que je cite assez souvent Frère Branham aujourd'hui. Mais Frère Branham disait, le croyant est revêtu de capacités divines. Il a le droit au nom du Seigneur de prononcer certaines choses. Et ça arrive. Nous sommes parfois hésitants, moi aussi. Je me demande seulement pourquoi et combien de temps encore cela durera. Combien de temps est-ce que nous voulons encore, par l'incrédulité et le doute, déshonorer Dieu? Nous voulons, dans la foi et la confiance, prendre Dieu au mot et dire oui à ce qu'il a dit dans sa parole. Si dans un verset il est écrit que en Christ, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement et que nous voyons qu'elle a été manifestée ensuite en lui, et dans le deuxième verset, il est ensuite écrit au verset 10, et en lui, vous possédez, pas seulement prier pour pouvoir la recevoir, non, jeûner et castrez-vous, non, il dit, et déjà vous possédez toute cette plénitude en lui. Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas dit? De sa plénitude, nous avons reçu, pas nous allons recevoir, mais nous avons reçu grâce. Et de notre Seigneur, il est dit, il a exprimé, je suis venu pour que vous ayez la vie et en abondance. En abondance veut dire plus que nous en avons besoin, plus que nécessaire, c'est-à-dire pour que par nous, elle se répande sur d'autres. Et cela a été accordé à l'Église. Mais nous n'en sommes pas conscients, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous n'en sommes pas conscients de ce que nous avons. Vous savez, parfois, quand j'apprends ceci et cela, il y avait une cassette, il y a quelqu'un qui, quelque part, a prêché, a parlé vraiment à droite et à gauche, à côté du but, mais l'enthousiasme est tellement grand, alors que ce sont des interprétations, il loue Dieu pour des choses, pour des vanités qui sont ni de la nourriture, ni de l'eau à boire. Et je me pose parfois la question, mais qu'est-ce qui doit se arriver avec nous? Qu'est-ce qui doit se passer avec nous pour qu'une source puisse jaillir jusqu'à la vie éternelle? Pour que la reconnaissance, enfin une fois pour toutes, monte et atteigne le trône de Dieu pour le grand privilège que Dieu nous a accordé par sa grâce. Disons oui à la parole de Dieu de tout notre cœur. Il est écrit ici que, et en lui vous possédez toute la plénitude, en celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous possédez. Lisons ici ce mot. Quand nous lisons domination et autorité, nous pouvons lire dans Philippiens et dans Colossiens que il les a dépouillés, il les a désarmés, il les a publiquement exposés au carcan triomphant d'elle en lui par la croix. Colossiens 2, verset 15. Le Seigneur est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église. Nous ne sommes pas dépendants de nous-mêmes ou bien de moi et moi de vous, non. Nous sommes tous dépendants du Seigneur qui est la tête, le chef. C'est de lui que la puissance vient, le plan. Tout vient de l'instruction, tout vient de lui. C'est lui qui décide, qui planifie, c'est lui qui décide et il veut pénétrer tout son corps. Il veut nous pénétrer, nous remplir de sa vie et de sa puissance. Si, dans ces jours, nous nous ouvrons dans la foi et pas être en train de toujours demander et mendier comme si Golgotha serait pas encore accompli. Selon l'Écriture, comment est-ce que Dieu, qui n'a pas épargné son Fils, ne devrait pas nous donner toutes choses avec lui? Et il nous a donné toutes choses avec lui. Lui, qui était pauvre. Lui qui était riche, pardon, est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Et nous disons, nous appartenons pas non plus à ceux qui disent qu'ils sont riches, qu'ils n'ont besoin de rien, mais nous appartenons à ceux qui disent, Seigneur, je n'ai rien à apporter. car tu es toute chose au Seigneur. Tu as la plénitude. Et c'est de cette plénitude que nous voulons encore aujourd'hui recevoir grâce sur grâce. Jésus, notre Seigneur, est venu dans ce monde, est né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il dit ici, tous ceux qui sont de la vérité, écoutez ma voix. On n'a pas besoin obligatoirement d'aller dans Jean 10 où le Seigneur dit « Mes brebis entendent ma voix », n'est-ce pas? Mais cela est vraiment intéressant de le vivre dans la pratique. Je le remarque ici chez moi. J'ai des moutons, j'ai des brebis. Quand il fait obscur, même s'il y a du bruit, tout reste calme, ils ne bougent pas. Même si quelqu'un passe, quelqu'un les appelle, ils ne bougent pas. Mais dès que les brebis entendent ma voix, elles viennent. Je les entends tout de suite se lever et venir. Dès qu'elles entendent ma voix, je les entends tout de suite. Je peux passer 100 fois, j'entends rien. Personne, elle ne bouge pas. Mais au moment où elles entendent ma voix, elles sont là. Elles viennent tout de suite, elles répondent. Je le vis avec mes propres brebis, ici, au centre. Si nous sommes alors nés de nouveau et que nous avons reconnu que l'agneau de Dieu a versé son saint sang pour nous faire devenir des brebis de son pâturage, alors nous prêterons la voix, l'écoute à sa voix. Nous lui répondrons, nous viendrons à lui quand il parle. Nous ne pourrons pas rester tranquilles et calmes sans lui donner aucune réponse. Qu'est-ce qui se passe dans ces jours? Le Seigneur parle avec nous et parlera avec nous. Et nous aurons des jours que nous n'avions jamais vus auparavant. C'est ce que je pense. Et que nous puissions lier avec cela, nous attendre à ce que le ciel s'ouvre. Oui, le ciel est déjà ouvert. Il y en a vraiment beaucoup qui demandent, Seigneur, ouvre le ciel. Répand ton esprit. Jésus dit dans l'évangile de Jean au premier chapitre, dans l'histoire de Nathanaël, dès maintenant, vous verrez le ciel ouvert. Jean chapitre 1. Et l'ange et les anges de Dieu monter et descendre. Qu'est-ce que c'était? Le ciel n'est plus fermé. Il n'est plus d'airain. Il n'est plus fermé. Il est ouvert. Le trône de Dieu est on peut l'atteindre. Nous pouvons entrer dans le sanctuaire céleste pour adorer Dieu sous le sang de l'agneau. Je pense que nous le faisons dans ces jours. Nous sommes conscients toujours plus que ce ne sont pas nous qui pourrons devenir quelque chose devant Dieu avec ce que nous apportons de nous-mêmes, non. Mais que nous sommes sauvés, c'est par grâce. Et que un homme à qui les portes de la prison se sont ouvertes, il sera heureux et sera reconnaissant de voir qu'il est libre. Et nous voulons le devenir dans ces jours. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Car il a accordé la clarté et la lumière, l'éclaircissement par sa grâce. Dites-moi, qu'est-ce que le Seigneur devrait encore faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'il devrait encore faire avant que nous soyons emportés dans l'enthousiasme et que nous sortions de nous-mêmes et que nous ne pouvions rien faire d'autre que de louer, exalter le Seigneur et que la source s'ouvre à la vie éternelle et que des eaux de vie coulent de notre cœur, comme c'est écrit. Je crois que je l'ai dit. Alors que j'étais assis dans le bureau, que je lisais les Écritures, et lisais, je crois que c'était hier, après-midi, je ne pouvais même pas suivre ce que l'Esprit me montrait dans les Écritures. C'était tellement multiple, j'ai été tellement saisi. Je ne pouvais même plus écrire les versets tellement il y en avait tant que l'Esprit me montrait qui inondait mon cœur. Je ne pouvais même pas tous les écrire, et je m'excuse. Mais une telle joie vint sur moi. Moi, comme un Allemand de l'Allemagne, du Nord, de nature, au Nord, n'est-ce pas? Les Allemands sont froids, n'est-ce pas? Mais j'ai frappé des mains et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai continué. Je ne pouvais pas arrêter de me réjouir, de frapper des mains. J'étais seul dans le bureau. C'est ainsi que intérieurement, cela m'a saisi. J'ai sauté et j'ai levé mes mains. Et je suis allé de partout dans le bureau et j'ai remercié le Seigneur. J'étais seul, j'ai loué le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si je pouvais transmettre à ton peuple, tel que je viens de le recevoir, si fraîche, si vivant, tel que je l'ai reçu. Si je pouvais transmettre là comme ça, tel que je l'ai reçu, et que chacun pouvait le recevoir tel que je le reçois maintenant. Qu'est-ce qui se passerait parmi la congrégation, parmi ceux qui écoutent? Nous voulons dans ces jours être ouverts. Et tout dans un ordre divin, mais avec reconnaissance. La reconnaissance devrait inonder nos cœurs. La louange devrait venir de nos lèvres. Et il est écrit, celui dont le cœur est rempli, cela déborde. Car la bouche parle selon ce qui est dans le cœur. Si nous sommes remplis de ce que Dieu nous a accordé, la lumière, l'éclaircissement, quoi que ce soit, si cela est précieux pour nous, est devenu précieux pour nous, est-ce que nous ne devrions pas remercier le Seigneur pour cela? Quelqu'un qui a reçu quelque chose de Dieu, est-ce qu'il ne devrait pas lui dire merci pour cela? Vraiment une adoration en esprit et dans la vérité qui atteint le trône de Dieu. Résumons, tout le corps doit être éclairé, doit avoir de la lumière. Et la lumière qui a été accordée ne doit pas être obscurcie ensuite. Bien au contraire, elle doit être conservée. Elle doit devenir même plus brillante jusqu'à que le jour apparaisse, comme c'est écrit dans le Proverbe 4. Nous sommes là pour écouter la vérité. C'est peut-être raison que nous sommes nés de nouveau justement, comme le Seigneur. Lui était né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Il a fait, nous acceptons sa parole, son témoignage à la vérité, et nous disons merci pour cela. Pilate, lui autrefois, a dit, qu'est-ce que c'est que vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et la réponse est très simple. La parole de Dieu est la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Si j'ai toujours cru que nous expérimenterons une sanctification biblique dans la parole de Dieu, alors c'est maintenant, pas de ta manière et pas de ma manière, mais de la manière de Dieu. Une sanctification dans la parole de la vérité. Nous allons encore venir à parler de cela, car aussi des croyants, n'est-ce pas, sont affligés par l'ennemi. Ils se fatiguent, ils s'efforcent. Et ils ont toujours le visage tendu et ils pensent par cela atteindre la sanctification. Non, dans la parole de Dieu aussi, ce point est très clair. Elle nous est montrée très clairement. Dieu nous a tout donné, tout mis à notre disposition. Nous devons seulement nous identifier à sa parole. Nous devons dire amen de tout notre cœur, pouvoir dire oui de tout notre cœur à ce qu'il a dit et tel qu'il a dit. Je suis convaincu de ce que il nous aidera. Il nous aidera pour que nous avons reçu de lui et recevant de lui, nous puissions le vivre, le transmettre aux autres. Et que ce ne soit pas des paroles vides, sans contenu, mais vraiment la puissance de Dieu qui peut être manifestée, visible pour les autres. Selon la parole de l'Écriture, le royaume de Dieu n'est pas constitué de paroles seulement, mais dans la puissance, dans la preuve de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. Combien veulent que Dieu lui-même reçoive ce que nous venons de prendre en se confessant à sa parole et qu'il puisse se répandre avec de son Esprit avec son esprit sur l'église. Et son esprit est la puissance de Dieu. Car le Seigneur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à vous puissiez être revêtus de la puissance d'en haut. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la puissance de Dieu. Et l'esprit de Dieu est-elle ce revêtement, cette puissance d'en haut. L'esprit de Dieu était la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous attendons dans ces jours. Je l'attends. Que tous reçoivent la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne sur nous tous. D'une telle manière puissante, comme jamais auparavant. Même s'il y en a qui vivent récemment à cause de certaines observations, de choses qui sont mal passées, regarde à cela, je vous garantis une chose. Si la parole de Dieu est écoutée par quelqu'un de tout son cœur et est crue après l'observation de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra sur la parole qu'on a reçue. Et là où on l'a reçue, c'est-à-dire dans notre cœur, et vivifiera sa parole là où nous l'avons reçue dans notre cœur, et tous seront rafraîchis dans la présence de Dieu. De telles réunions doivent être des jour de rafraîchissement devant la face de Dieu. Que son nom soit loué et exalté. Amen. Son saint nom. Levons-nous pour adorer. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te remercions de ce que tu nous as couronné de grâce et de miséricorde. Seigneur fidèle, ensemble nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions pour les jours qui sont devant nous. Nous te remercions de ce que tu as ôté. Toute affligation, toute hésitation, toute tristesse, tout découragement, toute douleur, tout lien, tout obstacle, tout. Tu ôtes tout et que tu te ferais un chemin. Tu te ferais un chemin. Tu accordes une percée à ton peuple pour que la gloire, ta gloire soit manifestée parmi ton peuple. Nous te louons, nous t'exaltons de tout notre cœur de ce que cette réalité divine en nous sera manifestée. Alléluia.
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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia.
Alléluia.
Celui qui l'a jamais fait, qui puisse commencer ce soir. Dites, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te loue. Seigneur, j'exalte ton saint nom. Dites Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur fidèle, sois sur nous, parmi nous, avec nous, en nous. Confirme ta parole. Oh Seigneur fidèle, notre Dieu fidèle, d'une manière puissante. Sauve, guéris, délivre. Mon Dieu, que dans l'église du Dieu vivant, chaque parole devienne vraie, chaque promesse comme une réalité soit retrouvée dans l'église. Alléluia. Seigneur, il est écrit que là où ton peuple est rassemblé en ton nom et est un, là tu marches parmi eux. Seigneur, que cela soit manifesté, que la parole écrite, les promesses écrites, qu'elles deviennent manifestées comme vérité. Et Seigneur, que tu puisses passer par nos rangs aujourd'hui, toi-même. Seigneur, nous te remercions pour cela. Et louons ton Saint-Nom. Nous t'adorons. Alléluia. Accorde la clarté, l'éclaircissement. Touche nos cœurs.
Alléluia.
Seigneur, manifeste dans ces jours les réalités de la victoire de Golgotha. La rédemption, le pardon, la réconciliation, le plein salut, le plein évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Si cela est vrai avec nous, alors accorde de l'enthousiasme. Nous te remercions pour cela. Nous t'adorons. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, que nous puissions nous débarrasser du quotidien. Oublier le quotidien. Oh, mon Dieu. Et être dans les lieux célestes. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi, roi des peuples, toi, tête de l'Église, Seigneur, nous t'adorons, nous te remercions, nous t'exaltons, nous t'adorons. Alléluia! Alléluia! Car tu as pris le livre et tu as brisé les sceaux et tu as révélé le contenu. Alléluia! 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 Oh Dieu! Chantons! Oh, c'est Jésus! Oh, c'est Jésus! Oh, c'est Jésus! Lui-même. Oh, c'est Jésus. Jésus. Jésus lui-même. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a lavé pur. Combien croient que son sang nous a lavé purs. Nous levons les mains et chantons encore ce cœur. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus lui-même. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a lavé pur. Il y a la puissance dans le sang. Il y a de la puissance, la puissance dans le sang. La puissance est dans le sang du Seigneur, dans le sang du Sauveur seul.